VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
À Dakar, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par la crise migratoire. Une centaine de migrants africains ont réussi à pénétrer ce mardi dans l'enclave sous administration espagnole de Melilla, en franchissant la route barrière frontalière qui la sépare du Maroc. La dernière tentative d'entrée massive à Melilla remonte à octobre 2016, quand une centaine de migrants africains étaient parvenus à franchir la triple clôture d'une longueur d'environ 12 km. Et toujours concernant la crise migratoire, la CPI, la Cour pénale internationale, a l'intention d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye, pays qui est devenu un marché pour la traite des êtres humains, a déclaré lundi la procureure du tribunal. Des milliers de migrants, dont des femmes et des enfants, sont retenus dans les centres de détention en Libye, où les crimes, y compris meurtres, viols et actes de torture, sont présumés monnaie courante, a souligné Fatou Bensouda devant le Conseil de sécurité de l'ONU, en précisant que la CPI est en train de collecter des éléments sur ces crimes présumés. Un autre exemple de la gravité de la crise migratoire, le tout dernier drame de l'immigration en Méditerranée centrale, où au moins 11 personnes sont mortes dans deux naufrages au large de la Libye. Plus de 230 autres sont portées disparues, d'après la marine libyenne et des organisations internationales citant des survivants. Le point avec Morgane Guiriec.
Les corps de 10 femmes et d'un enfant ont été découverts hier sur une plage de Zawiya, à 50 km de Tripoli. Le croissant libyen n'a pas été en mesure d'indiquer si ces personnes étaient à bord d'une embarcation de fortune qui a récemment chaviré. Le bateau transportait au moins 170 migrants et 7 personnes ont été secourues, d'après Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne. Le deuxième naufrage concerne un canot pneumatique parti vendredi de Libye avec 132 personnes à bord. Selon des survivants, des femmes et des enfants figurent parmi les disparus.
En Somalie, nouvelle attaque terroriste lundi dans le centre de la capitale somalienne. Au moins 6 personnes ont été tuées, une dizaine blessées dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Cet attentat n'est toujours pas revendiqué, mais le mode opératoire ressemble à celui souvent utilisé par le groupe islamiste Al-Shabaab. Abdourahman Dia.
La voiture piégée a explosé juste à côté d'un café italien sur une artère très fréquentée du centre-ville menant au palais présidentiel. Un témoin a rapporté que l'explosion a été très forte et de nombreuses personnes se trouvaient sur place. Mogadiscio est régulièrement le théâtre d'attaques similaires perpétrées par les islamistes Shabaab. Ils ont promis de détruire le fragile gouvernement somalien, soutenu par quelques 22 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM. Le nouveau président Mohamed Abdoulaye Mohamed avait appelé, lors de sa prestation de serment en février dernier, les jeunes membres du groupe à renoncer à la lutte armée afin de bénéficier d'une amnistie.
RDC, une centaine de policiers anti-émeutes ont encerclé aujourd'hui à Kinshasa le siège de l'UDPS, le parti historique de l'opposition dans le pays, devant lequel se consumait un véhicule de transport de troupes. C'est un montage du pouvoir pour empêcher les travaux de construction de la tombe d'Étienne Tshisekedi au siège de l'UDPS, a déclaré à l'AFP son porte-parole Augustin Kabuya, joint au téléphone. Étienne Tshisekedi, figure de proue de l'opposition à RDC pendant un demi-siècle, est mort le 1er février à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Le 22 avril, son parti a annoncé le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa le 12 mai pour être inhumé au siège de l'UDPS. Et ce, malgré l'absence d'un accord permettant une inhumation sur un terrain privé, interdite par la loi congolaise. Annoncé à plusieurs reprises, le retour de la dépouille de Tshisekedi a été maintes fois reporté sine die, faute d'accord entre la famille, le parti et les autorités congolaises sur le lieu de la sépulture de l'opposant. RDC toujours, selon l'ONU, 100 000 personnes ont fui leur foyer la semaine dernière dans la région du Kasaï en raison de la crise qui sévit dans ce vaste territoire du centre du pays. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Les chiffres sont effrayants. En l'espace d'une petite semaine, 100 000 personnes ont été forcées de fuir dans les Kasaï, a déclaré Rein Paulsen, directeur de l'OCHA en RDC. C'est une détérioration importante de la situation humanitaire, a-t-il déclaré, jugeant ces chiffres choquants et dramatiques. Les violences ont fait plus de 400 morts après le soulèvement de partisans de Kwamina Tsapu, le chef traditionnel, tué en août 2016 lors d'une opération militaire. Le bureau humanitaire de l'ONU a précisé que depuis septembre 2016 et le début des violences dans la région, 1,27 million de personnes ont été obligées de fuir. L'ONU accuse les miliciens Kwamina Tsapu d'enrôler des enfants soldats et d'avoir commis des atrocités, tout en dénonçant également l'usage disproportionné de la force par l'armée congolaise. Pour faire face à cette crise humanitaire, l'ONU a réclamé plus de 812 millions de dollars en urgence, dont seuls 20% ont été trouvés jusqu'ici.
La Voix d'Amérique en direct de Washington.
On reste en RDC. Le président Joseph Kabila a interdit la coupe anarchique du bois, principalement le bois rouge dans la province du Haut-Katanga, ainsi que sa commercialisation. Cette décision a été annoncée par son directeur de cabinet en mission d'enquête dans cette province. De Lubumbashi, le reportage de notre correspondant sur place, Narval Mabila.
Il s'est passé 2 ans d'exploitation du bois rouge et 72 heures d'investigation ont suffi pour que le dire-cap du président de la République, Némé Oulanya, annonce la décision du président Joseph Kabila.
À dater de ce jour, toute autorisation d'exploitation forestière, toute autorisation à quelque niveau de coupe de bois, toute autorisation d'exportation de bois, toutes ces autorisations-là sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a aujourd'hui donc aucun exploitant forestier qui peut se prévaloir d'une quelconque autorisation pour poursuivre la coupe de bois. Il n'y a aucun exploitant qui commercialise le bois ne peut se prévaloir d'aucune autorisation, n'est-ce pas, pour pouvoir exporter ce bois. Deuxièmement, tous les bois qui se retrouvent dans les dépôts ou entrepôts publics de la DGDA à charge de toute personne impliquée dans l'exploitation irrégulière du bois. Ces personnes, évidemment, peuvent être des civils comme des militaires. Toutes les autres autorités militaires ou policières impliquées aussi ou citées dans ces dossiers qui feront l'objet aussi des interpellations de la justice militaire ou civile selon les cas.
C'est une décision qui a bouleversé plus d'une personne impliquée dans l'exploitation illicite du bois rouge, autorités militaires et civiles, commerçants et chinois. Michel Kaboulo de l'ONG Développement et Environnement du Haut-Katanga fait sa lecture face à cette décision.
De la forêt jusqu'à la ville, même chemin faisant là, vous trouvez une barrière, vous payez cet argent-là, profitez à qui? Bien de venir dans la foulée, non, je suis pas tel, on fait tel, on chicote tel, mais est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer de tout ce temps? Parce que ce bois rouge n'a pas commencé en 2017 ou en 2016. C'est depuis l'époque de l'ancien gouverneur Moïse, ce bois-là a été déjà exploité. Il y avait même des Chinois qui vivaient en pleine forêt, vous trouvez des Chinois qui avaient investi des forêts entières sur Utukasenga, sans document, avec une exploitation industrielle.
Aussitôt annoncé, aussitôt mise en application, les services de sécurité ont commencé la chasse au bois rouge. Voici le témoignage et la réaction de certains louchois, dont Yves Yele et Junior Monga, tous habitants de Lubumbashi.
Juste quand la décision est tombée, nous avions juste vite constaté que tous les services de sécurité qui sont presque en alerte, constatons que sur les différents services de sécurité, il y a déjà des camions qui sont déjà saisis.
Qui est habilité à arrêter ces camions de bois rouge transportés par les investisseurs chinois, autres. Il y a même des... parce qu'on est dans une confusion totale.
Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Le président zimbabwéen Robert Mugabe, 93 ans, s'est envolé lundi soir pour Singapour pour passer des examens médicaux de routine, 2 mois à peine après sa dernière visite médicale en Asie. C'est ce que rapporte ce mardi le quotidien d'État du Zimbabwe. Le plus vieux dirigeant en exercice dans le monde se rend régulièrement à Singapour pour des examens de santé et son dernier voyage en mars avait fait l'objet de nombreuses spéculations. Mais aucun bulletin de santé officiel de Robert Mugabe n'a jamais été publié. Un autre dirigeant africain parti à l'étranger pour raison de santé, le président nigérian Muhammadu Buhari, qui s'est rendu à Londres pour y recevoir des soins. Le chef de l'État avait prévenu les 90 millions de Nigérians rentrant de Londres début mars après 8 semaines d'absence pour raison médicale qu'il y aurait d'autres voyages du même type. Mais son retour en Grande-Bretagne dimanche soir inquiète de plus en plus ses compatriotes. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.